Donc nous avons cet après-midi avec nous Gérard Nérand, sociologue. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Toulouse, auteur d'un livre au titre emblématique « La mère n'est pas tout ». Et vous vous intéressez à la complexité du conjugal. Alors, ma question pour vous, mais peut-être que vous n'y répondrez pas, je ne sais pas, c'est pourquoi a-t-on du mal à intégrer les pères dans le soutien à la parentalité ? Et quelle est la différence entre suppléer et se substituer ? Voilà.
Je vais essayer d'y répondre à ma façon. Alors j'ai le redoutable honneur de parler après la cantine de l'Assemblée nationale, qui, je tiens à le souligner, est bien meilleure que celle de l'université. Donc, je vais essayer de tenir mon propos en une demi-heure, un peu plus court que ce qui était prévu au départ, puisqu'on a du retard. En plus, je dois prendre un train pour Toulouse après, et c'était un des rares que la grève n'avait pas impacté, donc je serai obligé de partir. Je m'excuse pour les personnes qui suivent, que je ne pourrais pas entendre. Alors, comme l'a justement noté le regretté Robert Castel dans son dernier livre, nous sommes aujourd'hui dans une société des incertitudes, à laquelle j'ajouterai des paradoxes. Parce que la rapidité et la profondeur des évolutions que nous avons connues en un demi-siècle sont tellement importantes que nul ne sait véritablement ce qui va advenir. Et donc nos concitoyens ont beaucoup de mal à adopter une position sereine par rapport à toutes les contradictions que ces bouleversements ont provoquées. Et plus que d'autres, sans doute, les représentants des couches populaires, a fortiori s'ils sont précarisés, qui baignent dans cette incertitude et donc qui naviguent à vue, en quelque sorte, sans guère de repères. Si de surcroît ils se retrouvent en position d'avoir un enfant, le désarroi s'avère maximal et les risques de désaffiliation parentale très importants. Ces risques, vous le savez, touchent d'abord les futurs pères qui ne peuvent expérimenter dans leur corps l'annonce de leur paternité, mais les accouchements sous X montrent qu'ils peuvent toucher aussi les mères. De fait, les affiliations parentales sont des processus très difficiles à maîtriser qui échappent bien sûr en grande partie aux personnes concernées, du fait notamment de leur dimension inconsciente. Donc l'urgence d'un étayage se fait alors sentir pour beaucoup de ces jeunes et futurs parents, et la présence de structures, effectivement, comme les centres parentaux, s'avère à cet égard, me semble-t-il, fondamentale. Donc mes travaux sur les effets des mutations familiales sur les familles et plus globalement sur la sphère privée m'ont depuis 40 ans sensibilisé à cette fragilité de la position parentale, notamment de la position paternelle, et ce en quoi elle se trouve liée, bien sûr, à la question conjugale, aussi bien qu'à la question socio-culturelle. Donc je vais rappeler quelques points importants pour comprendre les situations contemporaines et évaluer en quoi la place paternelle, elle aussi, a besoin d'être soutenue et accompagnée. Revenons un peu en arrière, on l'a déjà fait ce matin, mais je vais reprendre aussi un certain nombre de choses. Rappelons que le choc pétrolier de 1974-1975, en nous faisant sortir des Trente Glorieuses et en provoquant la montée du chômage, s'est accompagné d'une prégnance nouvelle de conceptions néolibérales en économie qui ont favorisé la tendance de l'État à se désengager d'un certain nombre de charges sociales que prenait autrefois en charge ce qu'on appelait l'État-providence. Ces charges qui ont été reportées sur la société civile, les associations et sur les familles, et donc a opté pour une gestion de ce secteur de plus en plus managériale. À une époque où, par ailleurs, se développait une libéralisation des mœurs particulièrement forte, dont l'un des indicateurs les plus évidents est le taux de divorce, 10% en 1970, 30% en 1980. Les divorces ont explosé durant cette décennie et c'est un indicateur qui est révélateur de la profondeur de ces transformations. L'alliance de ces deux processus économiques et socio-culturels ont doublement fragilisé les couples et les familles. Ça a provoqué aussi bien une plus fréquente précarité socio-économique, comme vous le savez, avec la montée très importante du taux de chômage, qui à la fin des années 90 atteint les 10%, avec une plus fréquente fragilité conjugale et par contre-coup parentale. Donc les conjoints en situation économique précaire ont particulièrement subi cette évolution, Et la séparation de ces couples, qui continuaient à fonctionner sur un mode fusionnel, et selon un modèle de complémentarité des rôles entre le père et la mère, ces séparations étaient à la fois plus conflictuelles et plus perturbatrices. Les pères, en rompant avec la mère, se sont trouvés éloignés de leurs enfants, et les désaffiliations parentales les ont touchés beaucoup plus fréquemment que ceux des couches moyennes, évidemment. Leur soutien en est devenu, je crois, on ne peut plus nécessaire. En réponse à cette précarisation à double visage, on a vu se développer un ensemble de pratiques, aussi bien dans la société civile et les associations que du côté de l'État et de ses institutions, qui ont d'abord touché, logiquement, je dirais, les premières exposées à cette fragilisation, c'est-à-dire les mères, auxquelles ont été proposées des allocations comme l'allocation de parents isolés ou des mesures d'accueil comme les centres maternels, les lieux d'accueil enfants-parents ou les unités mère-bébé en pédopsychiatrie. Est-ce à dire pour autant que les pères s'en trouvaient dédouanés, laissant la responsabilité de l'enfant à la seule mère, alors que les mœurs allaient dans le sens contraire, c'est-à-dire d'une plus grande égalité entre les sexes et de sa mise en avant de l'objectif de coparentalité. Pardon. Et que donc la proximité des papas à leur bébé devenait de plus en plus manifeste et avait tendance à se généraliser. On a parlé de ces nouveaux pères des années 70 qui sont devenus de plus en plus fréquents. Bien évidemment que non. Les pères sont toujours concernés, mais si le soutien à la paternité a eu plus de mal à se développer que le soutien aux mères, ce n'est pas sans raison. Je vais essayer d'évoquer ces raisons en parlant du passage de la domination masculine à la fragilité paternelle. Effectivement, si les années 70 sont les années de remise en cause de la domination masculine sur l'ordre social, avec notamment le développement du féminisme sur la base du travail précurseur de Simone de Beauvoir, ces années s'accompagnent d'une transformation des représentations sociales, des rapports entre les hommes et les femmes, qui est fondamentale et qui est partagée par les deux sexes, et j'insiste là-dessus. En atteste le fait que dans des assemblées législatives qui sont essentiellement masculines, sont votées de façon très majoritaire les différentes lois qui mettent sur le chantier l'égalité qui est désormais revendiquée, même si parfois les résistances sont violentes, comme pour la loi sur l'avortement portée par Simone Veil en 1975 ou celle sur le mariage des personnes homosexuelles en 2013. Cependant, les lois sont bien passées. Donc cette évolution va être accompagnée par de nombreux écrits des sciences humaines et sociales que je n'ai guère le temps de présenter ici et que le développement des études de genre, portant essentiellement sur la place des femmes dans la société, illustre. Je noterai quand même parmi ces nombreux écrits certains qui problématisent ce passage dans ce qu'on a appelé la seconde modernité à partir de la fin des années 60. L'oxy ou le maternage insolite, on en a déjà parlé ce matin de David et Appel, l'amour en plus d'Elisabeth Badinter qui attaque la notion d'instinct maternel, trouble dans le genre de Butler bien sûr, où les mères qui travaillent sont-elles coupables, dont l'autrice était là ce matin. À l'inverse, les écrits sur le père sont beaucoup moins nombreux. La révolte contre le père de Gérard Mandel en 69, Le père, acte de naissance de Bernard Thys en 1980, ou La part du père de Geneviève de Lézy de Parseval en 81. Mais ils sont d'autant plus bienvenus qu'ils prennent le contre-pied de ce qui s'énonçait jusque-là. Je crois qu'on peut dire ainsi que si l'élaboration de la nouvelle place des femmes a été bien jalonnée par de multiples travaux, ça a été moins le cas pour les pères. De fait, de toutes les places, c'est sans doute celle qui a été la plus remise en cause et en même temps la moins élaborée. C'est ça un des paradoxes importants aujourd'hui. Effectivement, avec le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, avaient été posées dès 1949 les bases pour l'élaboration d'une théorie de l'émancipation des femmes à la française. Avec Françoise Dolto, la diffusion des connaissances sur le psychisme enfantin avait trouvé son héros, suivi par la reconnaissance officielle, évidemment, de leurs droits avec la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Mais rien d'équivalent n'a été produit pour l'homme. Sans doute parce que ce sexe, jusqu'alors dominant, n'avait, du fait de sa dominance même, pas besoin d'afficher sa légitimité. Si bien que si la place traditionnelle de l'homme et de la paternité a été remise en cause, pas grand-chose n'a été proposé pour la remplacer, malgré quelques travaux visant à la repenser autrement, comme ceux de Jean Le Camus, le père éducateur du jeune enfant, en 1999, la problématique paternelle, Chantal Zaouche, en 2001, la fin du dogme paternel de Michel Thor, le psychanalyste, hein, pas la chanteuse, de 2005, et les métamorphoses du masculin de Christine Castelin-Meunier en 2005, ou le récent « Pourquoi les pères travaillent-ils trop ?» de Sylviane Jeanpinot, donc toujours. La conséquence en est que dans beaucoup de familles, les normes restent très traditionnelles et les rôles bien différenciés, et particulièrement dans les milieux populaires précarisés. Pourtant, la présence des pères au bébé est sans doute ce qui a le plus évolué aujourd'hui dans les rapports familiaux, tant le rapport à l'enfant est devenu aujourd'hui, je dirais, un élément de la réalisation personnelle de ces deux parents. En témoigne le portage des bébés dans l'espace public. On voit plein de pères qui se baladent avec leur bébé sur la poitrine. Et je peux vous dire, quand j'étais enfant, ça n'arrivait jamais. Les pères se trouvent donc un peu à la croisée des chemins. Et si ceux des couches moyennes évoluent tant bien que mal dans le sens d'une égalisation des places parentales, ce n'est pas forcément le cas dans les milieux populaires, exemplairement dans les familles concernées par la protection de l'enfance, car celles-ci sont sans doute celles qui sont le plus concernées par une conception traditionnelle des rôles de sexe et donc d'une bipartition des tâches et des places à l'intérieur de la famille. Donc que va faire la protection ? Excusez-moi, ma voix aurait besoin d'être protégée aussi. La protection de l'enfance face à l'absence des pères. Dans un ouvrage déjà ancien, hein, sur le monde privé des ouvriers, datant de 1990, le sociologue Olivier Schwartz analysait les raisons pour lesquelles, dans les milieux populaires, les normes traditionnelles de répartition des places, des rôles et des pratiques restaient très présentes, résistant aux nouvelles valeurs et normes portées par les couches moyennes instruites. Je crois que ces analyses restent pertinentes aujourd'hui, d'autant plus que depuis les années 80, la politique de regroupement familial a contribué à accroître le nombre de familles d'origine étrangère qui vivent selon des normes traditionnelles, et donc qui se trouvent un peu en porte-à-faux avec les nouvelles normes relationnelles qui sont devenues dominantes. Ce qu'il énonçait alors se retrouve toujours d'actualité, donc je cite Olivier Schwartz. La netteté des clivages entre territoires et marques identitaires attribuées à chaque sexe rend extrêmement improbable l'hypothèse d'un échange ou d'une circulation des places et des fonctions entre les uns et les autres. Le maintien rigoureux des différences et de la netteté des écarts constitue le principe fondamental et consensuel de l'organisation des relations entre les sexes. C'est effectivement le modèle traditionnel, mais il perdure dans beaucoup de familles. Donc cette immuabilité des places, des rôles et des fonctions ne saurait se concevoir s'il n'y était pas en jeu quelque chose de l'ordre de l'identité des personnes construite sur cette asymétrie des places, justement. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans ce modèle de fonctionnement, la séparation, c'est une véritable catastrophe identitaire puisque son identité est construite en miroir de celle de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, effectivement, on ne peut remettre en question ces assignations de genre, en quelque sorte, sans perturbation grave. Ce qui rend compte à la fois, je dirais, de l'invisibilité des pères de milieux populaires pour bien des travailleurs sociaux, de leur disparition de la famille et du rapport à leurs enfants après une séparation conjugale, de la difficulté à trouver des nouvelles formulations qui soient adaptées à la clinique contemporaine et donc de la quasi-absence des pères dans les situations familiales concernées par la protection de l'enfance, qu'il s'agisse d'intervention à domicile, de placement familial ou en institution. Donc revenons un peu sur la façon dont les écrits des sciences humaines ont rendu compte de ce qui a changé et pourquoi ce changement rencontre tant de résistance alors que les lois ont relativement facilement accompagné la complexité de cette évolution en proposant tout un ensemble de dispositifs législatifs signant la sortie d'une conception patriarcale de la famille, notamment depuis la loi de 70, donc qui a remplacé la puissance paternelle par l'autorité parentale exercée conjointement par le père et la mère. En effet, le nouveau modèle familial qui est mis en place dans le dernier tiers du XXe siècle, qui remet donc en cause le monopole masculin du travail et qui renvoie la procréation à une décision réfléchie, grâce bien sûr à la diffusion des moyens modernes de contraception, ce nouveau modèle se définit comme associant les deux conjoints sur un pied d'égalité. Donc il implique un autre rapport du père à ses enfants, qu'on va qualifier de plus affectif ou de moins autoritaire, et de plus direct aussi. Il devient alors nécessaire de reformuler théoriquement la question paternelle. Mon approche socio-historique de l'évolution des savoirs sur la petite enfance et les places parentales dans la seconde moitié du XXe siècle, qui est consignée dans « L'enfant, la mère et la question du père », un livre qui est paru en 2000, qui a été réédité depuis. Donc cette approche note que dans les années 80, cette reformulation commence à se mettre en place avec non seulement Bernard Thys et Geneviève Delezy de Perceval que j'ai cité et les autres auteurs évoqués, mais aussi Guy Corneau ou Elisabeth Badinter et bien d'autres, qui viennent apporter de l'eau au moulin des reformulations. Le mouvement va s'intensifier dès le début du XXIe siècle et donc vont s'accumuler les nouvelles recherches qui relativisent le rapport privilégié de la mère au petit enfant, qui était considéré jusque-là comme une donnée immuable. La tendance est cependant à ce que s'affirme de plus en plus dans les attitudes comme dans les résultats d'études et les écrits, l'importance du père dans les pratiques éducatives et de soins, au même titre que la mère, bien évidemment que l'inertie des rapports sociaux et des modèles culturels semble encore laisser à l'asymétrie des places un bel avenir. Dans cette dynamique, de nouveaux concepts sont proposés, comme l'idée de paternage, qui remet en question l'idée que le soin tendre à l'enfant est du seul ressort maternel. Et moi, j'insiste bien, quand les papas s'occupent des bébés, ils paternent, ils ne maternent pas. C'est rendre quelque chose qui est de l'ordre de leur pratique, et ce n'est pas singer la mère. Ou bien la notion de préoccupation paternelle primaire, qui est développée par un certain nombre d'auteurs, alors qu'on a longtemps pensé cette préoccupation comme étant spécifique à la seule mère, on l'a évoqué ce matin, sans compter évidemment la reformulation de la triangulation qui a été réalisée par de nombreux auteurs, Fivaz et Corboz, Noël et Cyr par exemple. Et donc, développement des approches pluridisciplinaires. Et sans bien sûr prétendre à être exhaustif quant à l'étendue de ces reformulations, je vous renvoie simplement à beaucoup de travaux qui sont en cours sur cette question. Alors, quelle place donner au corps dans cette reconfiguration théorique, alors que c'est d'abord à lui que se réfèrent tous ceux qui pensent que la fonction du père, c'est d'abord d'être pourvoyeur et dispenseur d'autorité, et que son rôle est, pour Singer Winnicott, de bien s'occuper de l'environnement de la mère. C'est ce que disait ce grand clinicien il y a une cinquantaine d'années. Alors, quelle est la place du biologique? Mais en fait, Bob Dylan nous rappelait en 1964 « The times, they are changing ». Les temps sont effectivement bien en train de changer. Depuis cette période-là, l'eau a coulé sous les ponts et les certitudes antérieures se sont dissoutes dans les bouleversements apportés par le nouveau monde. Il n'est plus si sûr aujourd'hui, comme on l'a longtemps cru, que les places parentales seraient déterminées en dernière instance par la biologie. Désormais, il semble plus raisonnable et scientifiquement correct de penser que le biologique, en l'occurrence la différence des sexes, n'est qu'inducteur des différenciations entre les pères et les mères et que les différences de place, de rôle et je dirais même de fonction sont relatives à l'époque et à la société qui les mettent en œuvre. Ça permet effectivement de mieux comprendre les variations de positionnement d'une culture à l'autre ou d'une période à l'autre de l'histoire. Mais le nouveau modèle contemporain, ce modèle dit démocratique, puisqu'il reprend les valeurs de la démocratie à l'intérieur de la famille, s'il promeut l'égalité et l'autonomie des parents, reste pour beaucoup une utopie. L'égalité est encore loin d'être au rendez-vous, car le système social tout entier résiste à une entreprise aussi fondamentale. Depuis les logiques ancrées dans le milieu professionnel, qui ont été évoquées ce matin, jusqu'aux représentations développées par les discours sur l'ordre sexué du monde et ses ancrages jusque dans ce qui se veut être des sciences de la psyché pour certains. Et donc aujourd'hui, la clinique, elle est un champ de bataille entre ceux qui s'accrochent aux formulations antérieures et ceux qui essayent de les reformuler. Pourtant, je l'ai dit, effectivement, de nombreux travaux montrent à quel point les pères contemporains sont gênés dans leur aspiration à s'occuper davantage de leur bébé, par leur statut social de pourvoyeur aux besoins de la famille et les contraintes professionnelles que cela continue à exercer, aussi bien au niveau de l'organisation du travail qu'à celui de l'intériorisation des normes prescrites. Si vous êtes un papa et que vous dites à votre chef d'entreprise que vous voulez prendre un congé pour maladie de votre enfant, la première chose qui vous répond, c'est « ta femme est malade aussi ?» Donc, effectivement, on est dans un ordre qu'il est très difficile de bousculer. Les mères continuent à être perçues comme les seules personnes véritablement appropriées au bien-être du bébé. Tout fonctionne comme si le biologique prescrivait les attitudes possibles, alors qu'en fait, il ne fait qu'induire celles-ci. Et c'est tout à fait différent, une induction et une détermination. Si la force de cette induction dépend de la façon dont la société et les différents milieux de vie envisagent son importance, c'est bien parce que l'être humain est avant tout un être culturel, du fait même de la néoténie du bébé, c'est-à-dire de son immaturité fondamentale à la naissance. À sa totale dépendance à son environnement et aux conséquences relationnelles que cela implique, on l'a très bien montré ce matin, correspondent effectivement des capacités d'apprentissage inouïes grâce à ce qu'on appelle sa plasticité cérébrale. Le bébé en devient ce qu'en feront ses interactions avec son environnement et évidemment les normes sexuées que cet environnement véhicule. Or, effectivement, l'époque a complètement changé la donne et plus grand monde n'oserait contester aujourd'hui l'égalité entre les sexes, l'accès des femmes au travail salarié ou l'accès des pères aux bébés. Certes, vous me direz, ce sont toujours les femmes qui allaiteront, mais le biberon a quand même quelque peu modifié les choses. Et dans les couples, certes minoritaires, où la femme gagne plus que son conjoint, le congé parental peut beaucoup plus facilement être paternel. Mais ces pratiques novatrices concernent bien peu, on le sait, les parents précarisés et dont les enfants sont pris en charge par la protection de l'enfance et qui voient les pères s'éloigner ou être évincés du rapport à leurs jeunes enfants. Je terminerai donc là-dessus, hein, j'ai fait vraiment vite, là, je suis allé un peu vite, excusez-moi, mais comme on avait un grand retard, sur les intervenants sociaux, en quoi ils sont interpellés par la nouvelle paternité. Ça permettra peut-être de laisser 5 minutes pour des questions.
Merci beaucoup.
Donc, je dis quand même ma conclusion. Les intervenants sociaux se trouvent interpellés sans avoir toujours la possibilité de modifier leurs habitudes, tant leur situation semble inscrite dans une sorte de consensus qui est difficile à remettre en cause, qui suppose que seules les mères sont concernées par le soin et l'éducation de leurs enfants, que donc les pères sont absents, et qu'il ne sert pas à grand-chose de vouloir les réhabiliter, puisqu'ils entérinent ainsi par leur absence une telle exclusion du travail social. Pourtant, les pratiques novatrices développées dans les centres parentaux montrent à l'envi qu'il est possible de réintroduire le père auprès de son enfant lorsqu'il se trouve en risque avancé de désaffiliation et que cela va être bénéfique pour tout le monde. Mais ça suppose une quadruple évolution des attitudes, des pères bien sûr, mais aussi des mères, des intervenants et des institutions, parce que tous sont loin de croire à l'intérêt d'une telle démarche. Cette démarche suppose un travail de mise en confiance permettant une véritable élaboration de leur place par les intéressés. Et cette question de l'élaboration de la place, elle est fondamentale à notre époque, justement, de monter des incertitudes. D'abord, effectivement, il faut qu'il y ait une mise en parole par les pères leur permettant d'exprimer un ressenti la plupart du temps délégitimé. Et on a bien vu ce matin, hein, c'était extrêmement intéressant, la dernière intervention, ces jeunes papas, la difficulté qu'ils avaient à parler de leur vécu paternel, hein, et que ce n'était pas quelque chose qui était évident pour eux. En parallèle, évidemment, une mise en parole aussi par les mères, leur permettant de reconnaître une place paternelle dégagée du conjugal. Et le travail que j'avais réalisé sur les femmes en situation monoparentale précaire avec une collègue psychanalyste l'avait bien montré, la question de l'élaboration de la place va permettre de défusionner la vision des rôles. Pour ces mères précarisées, le père était rejeté en même temps que le conjoint. C'est-à-dire c'était le travail d'élaboration a permis de disjoindre la place du père et la place du conjoint. Les relations avec le conjoint s'étaient arrêtées, mais une nouvelle place pouvait être accordée au père. Et d'une écoute, troisième dimension, correspondante des intervenants qui doivent être suffisamment formés pour cela. Et bien évidemment, la formation des intervenants est extrêmement importante. Et quatrième dimension aussi, une prise de conscience par un certain nombre d'institutions des possibilités qu'une telle réintroduction des pairs à un autre niveau que celui de pourvoyeur ou de dispenseur d'autorité pourrait avoir de bénéfique et œuvrer dans ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant. Bien souvent, dans les institutions, la question paternelle, elle n'est posée qu'en urgence, quand il y a éclatement de la famille, et ce n'est qu'alors qu'on se rend compte de l'importance de la place paternelle, alors que justement le père ne peut plus tenir cette place à ce moment-là. Donc il y a effectivement un travail aussi de la part des institutions à réaliser pour arriver à que les choses se mettent en place. Donc une journée comme celle d'aujourd'hui nous montre tout ce qu'il est possible de faire en ce sens et qu'il n'est que temps de développer cette nouvelle démarche à l'égard de ceux qui ne sont bien souvent considérés que comme le deuxième parent, et c'est tout à fait intéressant cette idée de secondarité. Il convient ainsi non seulement de requalifier la place paternelle, mais aussi de lui donner une légitimité symbolique nouvelle, en accord avec le sens contemporain qui est désormais accordé à la paternité, pour permettre de restaurer la possibilité effectivement d'une véritable coparentalité, et comme le dirait le droit, celle de l'autorité parentale conjointe. Je m'arrête là, merci. J'ai réussi à parler en 28 minutes, je suis content. Donc il reste 2 minutes.
Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous devez partir à quelle heure ?
Dans 5 minutes.
Ah bon, bon alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle ?
Donc, vous avez 5 minutes pour poser des questions. Oui. Après, j'ai mon train qui m'appelle.
Tu as le micro. Personne n'a de questions. Moi, j'avais une question. En fait, si j'ai bien compris, mais j'ai peut-être mal compris, vous considérez qu'il n'y a pas de différence biologique, que c'est uniquement culturel, c'est ça, entre père et mère?
Ah non, je ne dis pas du tout la différence biologique. Ça serait quand même du déni de réalité, que mes collègues cliniciens connaissent bien. Non, je dis simplement que la différence biologique, elle induit des choses qui vont être favorisées ou pas par la société. C'est-à-dire qu'à l'époque où les femmes faisaient 10 enfants, je me rappelle, à l'époque de ma grand-mère, une famille nombreuse, c'était 7 enfants. Aujourd'hui, c'est 3. Donc, on n'était pas à la même époque. Au XIXe siècle, effectivement, la place des hommes et des femmes était très différente. Et l'induction biologique des places était très forte. Aujourd'hui, les femmes travaillent, elles ne font plus que 2 enfants. La période d'éducation de la petite enfance est très brève. Elles ont le même travail que les hommes. Le taux d'activité féminin a quasiment rejoint celui des hommes. Les pères ont investi le rapport à leur enfant. Les choses sont en place pour que, effectivement, les rôles et les fonctions soient différentes. Que donc l'induction qui est provoquée, évidemment, par le fait que les femmes portent les enfants et accouchent et allaitent par la suite, est beaucoup moins forte sur les rôles maternels et paternels qu'elles pouvaient l'être autrefois. Et que donc l'évolution culturelle que l'on connaît justifie une reformulation des différentes places. C'est ça sur lequel j'ai insisté. C'est-à-dire différencier. Autrefois, on pensait que le biologique déterminait la place des hommes et des femmes. Moi, j'ai dit le biologique induit quelque chose, mais c'est la société, c'est l'environnement qui lui donne une importance plus ou moins grande à cette
induction. C'est quand même lié au contrôle des naissances. C'est quand même lié au contrôle des naissances.
Bien sûr, c'est lié à tout un ensemble de phénomènes que je n'ai pas évoqué, qui font qu'à partir des années 70, on bascule dans un autre monde. Aujourd'hui, un enfant qui naît a 2 chances sur 1000 de mourir à la naissance. Au début du 19e siècle, c'était 250 chances pour 1000. Ça n'avait rien à voir. 25% des enfants mouraient avant un an, 25% mourait avant l'âge adulte, et on disait il faut 2 enfants pour faire un adulte. Aujourd'hui, on est dans une société complètement différente, qui est technicisé et où, évidemment, les positions de sexe sont beaucoup plus proches les unes des autres que ça pouvait l'être autrefois. D'où cette idée d'induction plutôt que de détermination par le biologique.
Merci. Il y a une question ?
Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça marche. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais vous poser une question sur ce que vous avez appelé par ailleurs le malaise dans le soutien à la parentalité, c'est-à-dire comment concilier un nécessaire étayage des fonctions parentales et en particulier celle du père, alors même que les professionnels chargés de cet étayage n'ont peut-être pas toutes les compétences parentales requises, y compris pour eux-mêmes, puisque les parents parfaits n'existent pas.
Alors, vous reprenez le sous-titre d'un ouvrage collectif sur l'éthique du soutien à la parentalité. Mais si je pars sur la question du soutien à la parentalité, cinq minutes ne me suffiront pas. Donc, effectivement, il y a un malaise chez les professionnels qui est très largement lié au fait qu'ils subissent des injonctions contradictoires, des double bind, comme dirait Matheson. Et que donc, bon, quelqu'un qui est soumis à un double bind, comment il réagit ? Par l'agressivité, par la névrose, par... une hyperactivité, c'est très difficile. Hein. Il peut essayer de rationaliser, de prendre du recul et de dire bon, qu'est-ce qui est important, d'où l'importance évidemment de la réflexion éthique des professionnels quant à leur intervention auprès des parents. Hein, moi, je ne développe pas, mais effectivement, je vous renvoie à ce livre sur l'éthique du soutien à la parentalité et ce malaise dans le soutien à la parentalité.
Bonjour, je suis là. Ici. Bonjour. On m'entend pas. Ah. Bonjour. Je m'appelle Céline Truong, je travaille à TD Quart Monde et je réfléchissais en vous écoutant sur la place du père à la question de l'impact de la précarité sur cette place du père. Elle est à la fois centrale dans votre propos et en même temps, c'est une transversalité un peu invisible. Les parents concernés par la protection de l'enfance sont très majoritairement des parents qui connaissent des conditions très adverses dans lesquelles essayer d'être les meilleurs parents possibles. Et vous avez beaucoup parlé de la fonction paternelle traditionnelle qui est effectivement très à l'œuvre en quart-monde encore aujourd'hui, qui est pourvoyeur d'autorité. Mais moi, j'ai l'impression de voir aussi... quelque chose qui est mis à mal et qui se retourne contre les pères, qui est cette fonction traditionnelle également, qui est le père nourricier, qui sort de la maison pour aller ramener de quoi manger à sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, cette fonction-là est très mise à mal. Il y a des hommes qui sont éloignés du marché de l'emploi de façon quasiment définitive. Je connais des hommes, ils ne réussiront jamais juste à retrouver du boulot, surtout avec les conditions qui leur sont faites. Et donc là, il me semble que dans quelle mesure la pauvreté a un impact vraiment en termes d'humiliation de ces hommes et comment est-ce qu'on peut être un papa qui a de l'autorité sur ses enfants quand soi-même on se sent humilié dans son rôle de père. Et c'est aggravé par certaines situations de grande pauvreté où, par exemple, la mère fait semblant de ne pas avoir de conjoint pour percevoir l'allocation parent isolé. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. C'est très bien d'aider les mamans, financièrement les mamans toutes seules. Mais je connais personnellement des papas qui rentrent dans la maison, qui passent un temps à la maison, qui planquent leur brosse à dents et qui s'en vont. Comment on est un papa qui a de l'autorité sur ses enfants alors qu'on fait semblant de ne pas exister ? Et là, il y a vraiment... je réfléchissais un peu à haute voix sur le lien avec la précarité, précisément.
Vous avez tout à fait raison. C'est particulièrement difficile pour les pères qui sont dans un mode de fonctionnement traditionnel, comme dans beaucoup de milieux populaires, et notamment quand ils sont précarisés, et qui ont perdu leur emploi, qui donc n'ont plus le statut qu'ils pouvaient avoir en tant que pourvoyeurs aux besoins de la famille. Et parfois, la mère travaille et pas eux. Et c'est une délégitimation de leur position paternelle. Et certes, ils ont pu investir le rapport de proximité à l'égard de leur bébé ou de leur enfant, mais ça ne suffit pas. Et donc cette délégitimation paternelle contribue très largement à les éloigner de leurs enfants et même de leur famille. Et là, tout le savoir-faire des intervenants sociaux et des professionnels qui peuvent intervenir est nécessaire pour arriver à leur redonner une confiance en leur paternité et en leur position parentale. Donc le travail de soutien à la parentalité et de soutien à la paternité dans ces cas-là est un travail très délicat à réaliser, basé sur une écoute approfondie et la production d'une confiance entre l'intervenant et le parent. Et c'est particulièrement évident pour ces pères-là, ce qui est délicat. Mais on a vu ce matin, effectivement, que c'était possible. C'est-à-dire que des pères qui sont dans des modèles très traditionnels peuvent tout à fait évoluer de façon à réintégrer une logique de fonctionnement familial et ne plus laisser la mère dans une situation monoparentale. Donc, il faudrait avoir le temps pour développer évidemment toutes les stratégies qui peuvent être mises en œuvre à l'égard des milieux populaires et notamment les plus précaires pour permettre cette requalification parentale des pères et aussi bien souvent des mères, mais encore plus des pères. Et vous avez raison d'insister sur cette contradiction qui est particulièrement présente, bien sûr, dans ces situations. Voilà,
Alors, je vous remercie. Merci.